Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour l'ouverture de cette première conférence de consensus consacrée à cette vaste question de la transformation pédagogique dans l'enseignement supérieur. Peut-être quelques mots pour présenter la démarche des conférences de consensus que l'Institut français d'éducation met assez systématiquement en œuvre depuis maintenant un peu plus de 3 ans. En organisant des séries de conférences de consensus autour de questions, chacune pouvant être indexée dans des champs problématiques assez larges. Nous avons ainsi commencé à tester ce type de conférence, qui en fait a une longue histoire, en particulier nord-américaine, et qui sont des conférences qui ont été très utilisées dans le domaine de la santé publique, pour débattre de très grands sujets d'intérêt général dans le domaine de la santé publique. Nous avons donc testé d'abord ces conférences grâce à l'activité de la chaire UNESCO Former les enseignants au XXIe siècle, que l'IFE s'enorgueillit d'accueillir et qui est dirigée par Luc Ria, qui est présent dans cette salle. Nous avons ensuite transposé ce modèle dans le cadre d'un partenariat avec le CNESCO, donc, qui est cette nouvelle autorité indépendante chargée d'évaluer le système scolaire. Nous avons donc lancé l'organisation de conférences de consensus autour de problématiques d'intérêt général dans le domaine de la scolarité, avec une première conférence de consensus en particulier sur la numération, bientôt une sur la lecture, une sur les questions d'évaluation. J'en oublie. Et puis nous avons, lorsque nous nous sommes rapprochés, l'Institut français d'éducation de la DGCIP pour conclure une convention de partenariat autour de ces questions de ce qu'on appelle la pédagogie de l'enseignement supérieur, nous avons pensé qu'il était pertinent d'utiliser ce type de conférence pour essayer d'aborder aussi rapidement que possible un certain nombre de questions qui nous paraissaient conjointement des questions tout à fait cruciales, d'où l'organisation de cette série de 4 conférences de consensus en principe, si tout va bien, autour de la transformation pédagogique de l'enseignement supérieur, avec à la fois des sujets assez larges, comme celui dont nous allons parler pendant ces 2 jours, réussite et échec dans l'enseignement supérieur. Nous commençons volontairement par un sujet de large spectre, et puis ensuite des sujets qui pourront être plus précis, voire plus techniques dans une certaine mesure, comme celui de la prochaine conférence de consensus qui sera organisée le 30 et le 31 mai à Lyon, à l'Institut français d'éducation, donc au sein de l'École normale supérieure de Lyon, autour de la question de la construction des programmes de formation dans l'enseignement supérieur, et puis d'autres suivront à mesure que nous préciserons aussi les thématiques qui nous paraissent à la fois des thématiques d'intérêt général et des thématiques à partir desquelles nous avons quelque chose à dire et à offrir dans le cadre d'une conférence. Puisque je rappelle rapidement le principe de ces conférences, qui ne sont pas des colloques scientifiques, qui ne sont pas non plus de simples débats d'information, qui constituent une sorte d'hybride relativement bien fixé aujourd'hui, mais dont il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants. Il s'agit tout d'abord de documenter scientifiquement une problématique, aussi sérieusement que possible. À l'impossible, nul n'est tenu, mais au possible, nous sommes tenus. Donc, aussi sérieusement que possible, nous devons documenter une problématique dans tous ses aspects, y compris les aspects les plus équivoques, les plus troubles, les moins certains. Ce travail préalable de documentation scientifique, il est indispensable. Il a été réalisé par un comité scientifique. Au sein de l'Institut français d'éducation, c'est Laurent Cosnefroy qui va tout à l'heure introduire cette conférence qui a eu le rôle de pilote de cette réflexion scientifique pour l'Institut français d'éducation, mais la documentation scientifique proprement dite a été conduite par un comité scientifique, et je remercie Emmanuel Hanotte de bien avoir voulu conduire ce comité, en même temps d'ailleurs que de présider le jury, ce qui n'est pas toujours la solution que nous retenons, puisque parfois le président du jury n'est pas le président du comité scientifique, mais peu importe, là il y a des modulations qui peuvent être admises. car je les remercie, car cette documentation scientifique est un préalable indispensable. Si elle n'existe pas, la conférence de consensus n'existe pas. Cette documentation scientifique sert à la fois à produire un certain nombre de documents, de références. Certains de ces documents peuvent être diffusés en amont ou pas de la conférence. C'est le cas, par exemple, de ce dossier de veille de l'Institut français d'éducation que vous avez sans doute eu déjà à lire ou dont vous avez pris connaissance ou dont vous prendrez connaissance, consacré aux nouveaux étudiants d'hier à aujourd'hui. Donc c'est véritablement un dossier de veille. Il s'agit d'une revue de littérature scientifique sur cette question extrêmement complexe, mais cela peut être d'autres types de documents qui ne sont portés à connaissance que des membres du comité scientifique. Peu importe, l'intérêt, c'est que cette documentation permet de problématiser le thème, d'en faire un problème, hein, de l'énoncer comme un problème, et permet de construire le programme de cette conférence, parce que la conférence de consensus est évidemment quelque chose qui est défini à un moment donné par une unité de lieu, de temps et d'action. Hein, comme les tragédies classiques, il faut que cette conférence se déroule dans un cadre bien formalisé et que ce déroulé soit ponctué par des interventions d'experts choisis à partir de cette documentation scientifique qui, de manière très synthétique, vont venir présenter un état de l'art dans leur domaine de compétences, aussi consolidé que possible, et vont venir présenter cet état de l'art de manière à ce qu'il soit soumis à un public, vous, qui peut réagir et renvoyer des questions, soit directement, soit par les moyens modernes de communication que nous allons utiliser pendant cette conférence. Mais l'on soumet également cette parole experte à un jury qui siège, en général au premier rang ou aux deux premiers rangs, un jury composé à partir aussi de cette documentation scientifique pour être un jury de personnalités diverses en compétences et en sensibilité, un jury où on ne trouve pas que des scientifiques, bien au contraire, l'intérêt d'une conférence de consensus, c'est d'ouvrir la composition du jury à d'autres types d'expertise et à d'autres types de professionnalités que celles directement impliquées dans l'expertise scientifique. Et l'objectif de ce jury est, à partir de la documentation qui lui a été distribuée et d'un travail préalable d'appropriation de cette documentation, et à partir de l'écoute de ces expertises, de délibérer à la suite de la conférence de manière à trouver des points d'accord et des lignes de passage à partir de l'énoncé de positions qui sont souvent des positions de désaccord, ou en tout cas des positions de différents. Donc je rappelle que la conférence s'appelle de consensus, non pas parce que l'on veut faire taire toute différence d'appréciation, mais parce qu'on demande au jury de trouver les bons points de passage possibles entre les différentes positions désaccordées. C'est ça qui est intéressant dans une conférence de consensus. Et parfois, l'accord peut se faire autour du désaccord. C'est-à-dire, nous avons vu à l'IFE des conférences de consensus amener à un constat qu'on ne parvenait pas à concilier des positions inconciliables et que cela faisait partie du problème, mais qu'il ne s'agissait pas d'essayer de le résorber par un quelconque consensus mou, mais qu'il fallait au contraire plutôt instruire ce désaccord et ce qu'il apportait à la compréhension du problème que l'on avait énoncé. À la fin de cette période de travail du jury, le jury rend ses avis qui peuvent même, à l'occasion, alors ça dépend de la présidence du jury, ça dépend de la sensibilité du jury, mais ces conclusions du jury peuvent être parfois des conclusions prenant la forme de préconisations. de préconisations qui peuvent, de temps à autre, être des préconisations extrêmement précises. Et parfois être plus des recommandations ou des signalements de points d'intérêt. Donc il ne faut pas s'interdire de préconiser. Je dirais même plus que du point de vue de l'IFE, je pense aussi du point de vue de la DGCIP, il est extrêmement intéressant de sortir de ces conférences avec quelque chose qui ressemble à des préconisations, des recommandations, ou en tout cas quelque chose qui nourrisse, ça vient d'être dit tout à l'heure, véritablement notre capacité collective. Alors le « nous », là, c'est l'ensemble des parties prenantes du système d'enseignement supérieur, notre capacité collective à entreprendre des actions qui iraient dans le sens de, finalement, la transformation pédagogique et donc de l'amélioration de la formation supérieure dans ce pays, puisque c'est bien cela que nous visons. Autrement, je ne sais pas trop ce qui nous rassemblerait aujourd'hui si ça n'était pas cette volonté. Donc voilà, je me permets de rappeler ce cadre, Laurent peut-être y reviendra, mais je pense que c'est important pour qu'on comprenne bien dans quelles conditions vous allez travailler pendant ces deux journées. Alors, maintenant, si l'on doit dire quelque chose du thème, et si je peux me permettre de le dire, en n'y connaissant à peu près rien, en tant que spécialiste, je n'ai pas de parole experte sur cela, je n'ai finalement qu'une expertise un peu décalée, qui n'est pas celle de la pratique scientifique, mais qui est l'expertise d'un ancien président d'université que je fus maintenant dans une vie antérieure, chargé en particulier des questions de la pédagogie au sein de la conférence des présidents d'université, et puis aujourd'hui en tant que directeur de l'Institut français de l'éducation, direction qui me permet d'aborder ces problèmes d'une façon évidemment différente et complémentaire de celle que vous donne la position de président d'université. D'abord, et personne m'ayant déjà entendu ne sera surpris de cela, permettez-moi de commencer par une remarque purement personnelle, donc qui n'engage que moi, et vous pourrez être tout à fait en désaccord avec cette remarque. Je trouve que nous, universitaires, nous avons investi dans cette question de la pédagogie du supérieur. Pardonnez-moi cette expression qui pourrait être critiquée, contestée, mais qui fait sens assez vite pour tout le monde. Nous, universitaires français, nous avons investi dans cette question de la pédagogie du supérieur trop peu d'énergie depuis ces 30 dernières années, c'est-à-dire cette période qui a vu les universités françaises changer profondément. J'allais même dire cette période qui a vu les universités françaises être bouleversées par un certain nombre de grands changements, en particulier à l'initiative du lancement des processus de contractualisation au début des années 90. Ça fait maintenant presque 30 ans que ce processus a été lancé et qu'il a complètement bouleversé les universités. Et ça a été suivi de bien d'autres évolution, le mot est faible, qui ont pris assez souvent l'aspect de véritables mutations. Et le système d'enseignement supérieur français a complètement changé depuis 25 ans. Et en particulier, nous avons vu les universités, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, mais je vous ai dit que je parlais de mon expérience aussi de président d'université généraliste de province, donc ces universités assez classiques du paysage universitaire français. Nous avons vu les universités devenir des acteurs importants, pour ne pas dire des acteurs majeurs, de la recherche. Nous avons investi dans le développement de l'activité scientifique, une énergie incroyable, avec des réussites tout à fait probantes. Nous avons structuré des laboratoires, nous avons structuré des fédérations de recherche. Nous avons noué des partenariats tout azimut avec des organismes de recherche eux-mêmes en pleine évolution. Nous avons internationalisé ces partenariats. Et j'ai l'impression que nous n'avons pas mis la même énergie, la même inventivité dans l'évolution de la formation, alors même que cette formation a été concernée, excusez du peu, par le passage au LMD, puis quelques autres évolutions liées à la modification de la manière de contractualiser les formations, passage d'une logique d'habilitation à une logique d'accréditation, avec, pour accompagner cela, apparition d'une véritable politique de site, développement d'une nouvelle réflexion sur la formation professionnelle, sur la formation tout au long de la vie. Eh bien, pour autant, je suis toujours frappé de voir que cette question de la formation ne recueille peut-être pas tout l'intérêt qu'elle devrait recueillir. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi. Encore une fois, c'est une vision purement personnelle. J'en suis d'autant plus frappé que ce diagnostic est confirmé, me semble-t-il, par un certain nombre de difficultés que nous avons, nous, les universités, à accueillir, par exemple, les nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'éducation, à comprendre la place que ces ESP doivent jouer dans le dispositif de formation supérieure. Après tout, c'est là peut-être des écoles qui accueillent le plus important contingent de diplômés dans certaines filières qui ouvrent à des métiers qui sont parmi les plus importants pour nous, universitaires, parmi les métiers qui offrent le plus de débouchés aussi à un nombre d'étudiants extrêmement varié. Et pour autant, je n'ai pas l'impression que l'inclusion des ESP dans les universités, demandée depuis des lustres par les universitaires eux-mêmes, ait provoqué l'enthousiasme et la mobilisation de tous autour du projet que cela pourrait constituer, du projet de rénovation de l'ensemble de l'offre de formation que cela pourrait constituer, et pas simplement de la formation des maîtres. Je n'ai pas l'impression que cet enthousiasme ait été aussi souvent que cela au rendez-vous, et j'entends souvent, dans les positions que je suis, des retours sur l'intégration des ESP qui sont plutôt des retours qui évoquent des débats en termes de moyens, de postes, de locaux, de fléchage, de budget de fonctionnement, toutes choses qu'un ancien président d'université considère comme parfaitement légitimes, mais qui ne doivent pas, à mon sens, résumer l'intégralité du problème. Je pourrais multiplier d'autres exemples, jusqu'à d'ailleurs la difficulté que nous avons eue même à concevoir ces conférences de consensus, c'est-à-dire à admettre qu'il fallait nous lancer avec nos partenaires de la DGCIP, cette difficulté en disant, mais finalement, va-t-on trouver du répondant ? Allons-nous savoir mobiliser l'ensemble de la communauté universitaire, pas simplement ceux que la pédagogie du supérieur intéresse d'ores et déjà aujourd'hui, parce que ceux-là, nous les connaissons, mais plutôt mobiliser ceux qui pensent ne pas être intéressés par cette question de la pédagogie du supérieur, alors qu'ils en sont les premiers acteurs. Et je pense que nous avons encore du travail à faire pour que cette mobilisation de tous soit une réalité. Pardonnez-moi, je ne veux pas doucher l'ambiance, hein, mais nous sommes là aussi pour dire les choses aussi clairement que nous les ressentons. Autrement, je pense que nous ne ferions pas complètement notre travail. Cela dit, j'ai bien conscience de la difficulté de l'exercice, parce que si nous avons été confortés par la préparation de cette conférence de consensus, si nous avons été confortés dans une première intuition, c'est bien dans celle-ci. Ce dont nous parlons est d'une complexité redoutable. Ce dont nous parlons est d'une complexité redoutable, d'abord parce que, avant même de pouvoir problématiser, il faut faire un très gros travail d'identification du vocabulaire. un très gros travail de définition. De quoi parle-t-on au juste ? Lorsque, à l'Institut français d'éducation, nous avons demandé au service de veille et d'analyse de produire cette note sur les nouveaux étudiants d'hier à aujourd'hui, on s'est aperçu à quel point déjà essayer de qualifier la diversité du public, savoir exactement de quoi l'on parlait, déjà cela était difficile et nécessitait un très gros travail. Donc, nous sommes effectivement confrontés à des problématiques extrêmement complexe, où il n'y a pas de convergence si évidente que cela de point de vue scientifique, où même il reste des impensés, des vides, des creux, des zones d'ombre de la recherche. Dans ce rapport de l'IFE, et j'avais suivi aussi un certain nombre de discussions qui avaient préludé à la mise en place de cette conférence, la chose apparaissait aussi, hein, ce constat qu'il y avait encore beaucoup d'efforts à faire simplement pour essayer de comprendre, poser un diagnostic. Il est noté dans ce rapport que, par exemple, il y a très peu de recherches aujourd'hui qui essayent de véritablement comprendre ce que l'on appelle les expériences concrètes d'études vécu par les étudiants. Il y a quelques analyses, très peu, qui ont été faites sur la socialisation des étudiants, en particulier des recherches qui montrent les différents types de socialisation en fonction des milieux sociaux d'origine. Il y a quelques recherches qui ont été faites sur les modalités d'apprentissage. Mais les expériences concrètes d'études, ce que veut dire pour un étudiant s'engager dans un parcours qui n'est pas simplement un parcours de socialisation, pas simplement un parcours d'apprentissage, mais quelque chose d'autre qui articule différentes dimensions de l'existence individuelle dans une pratique complexe qui est celle de l'expérience de formation, nous savons très peu de choses de cela. Nous savons très peu de choses de la façon dont des étudiants circulent d'un cursus à un autre. Nous sommes partis sur des idées d'échec massif, mais en réalité, souvent cet échec, il est en quelque sorte une sorte de décor commode d'arrière-plan que nous avons l'habitude de sortir pour jouer notre petit théâtre, mais sommes-nous si sûrs de la radicalité de cet échec ? Ne sommes-nous pas confrontés à des mouvements masqués que nous ne voyons pas parce que nous ne l'observons pas ? Liés à des réorientations discrètes, à des phénomènes subreptices de reprise d'études, des changements d'univers de référence. Nous avons un énorme travail d'élucidation à faire, d'élucidation collective, et pour ça, il va falloir qu'un jour ou l'autre, d'ailleurs, on reconnaisse la dignité des recherches en éducation et que l'on considère que les recherches en éducation ont la même dignité que d'autres types de recherches bien plus nobles et bien mieux considérées. Je commence à en avoir assez de la désinvolture avec laquelle bon nombre d'universitaires, nos pairs, considèrent la recherche en éducation. Il en est de la recherche en éducation comme de la recherche en physique nucléaire. Il y en a de la bonne et il y en a de la mauvaise, mais on en trouve souvent de la bonne à partir du moment où on se met dans les conditions d'en produire de la bonne. Donc, nous avons besoin de connaître, de comprendre, et si ces conférences de consensus doivent aboutir à cela, je pense que c'est très important de le dire. Nous voyons aussi, et je vais m'en arrêter là, rassurez-vous, j'avais dit que je serais bref, c'est-à-dire que je parlerai moins de 4 heures, ce qui est très rare pour moi. Nous avons aussi, dans ce travail préalable, identifié une complexité que nous connaissons bien, c'est que ce dont nous parlons, c'est-à-dire cette amélioration de l'enseignement supérieur qui doit s'appuyer sur l'identification de ces expériences concrètes de formation et peut-être aussi ces expériences concrètes de formation vues du point de vue de l'étudiant, mais vues aussi du point de vue de ses enseignants. Parce que je pourrais dire la même chose sur ce que je viens de dire, l'expérience concrète de la formation des étudiants. On peut aussi essayer d'analyser l'expérience concrète de la formation vu du point de vue enseignant, qu'est-ce que c'est que vivre concrètement la situation d'enseignant aujourd'hui dans l'université française ? Cette situation, d'ailleurs assez étrange, d'un métier qui est le premier cité dans le statut, enseignant-chercheur, mais auquel on n'est jamais formé. Véritablement. Et un métier auquel on apporte si peu de considération encore dans la définition de la dignité d'un enseignant-chercheur. Oh, lui, c'est un bon enseignant, mais il ne fait pas de recherche. Combien de fois avons-nous entendu cela dans nos établissements ? Encore aujourd'hui, accentué même par certains programmes d'investissement auxquels je participe bien volontiers, et heureusement, les IDEFI et les IDEFI numériques ont été là pour essayer de compenser un peu cela, mais combien de fois avons-nous entendu cela ? Quel drôle de métier, quelle drôle d'expérience cela doit être ! Comment s'impliquer dans une partie du métier qui est à ce point considérée comme la partie défectueuse du métier. Ça me paraît quand même quelque chose d'un peu difficile, à tel point que l'idéal de beaucoup d'universitaires est de devenir chercheur temps plein d'un grand organisme. Excusez-moi d'être un peu direct, mais je n'ai rien contre les organismes, mais il y a, dans le thème qui nous occupe, il y a quand même une sorte de situation paradoxale dont à un moment ou à un autre, il faudra bien que nous sortions ou alors que nous arrêtions d'organiser des événements de ce type. Au moins, les choses seraient plus claires. Donc, dernier point qui nous a frappé, c'est la complexité liée aussi à l'intrication entre la considération de ces expériences particulières et les problématiques d'organisation globale du dispositif d'enseignement supérieur français. Un dispositif qui, je l'ai dit, a complètement muté depuis 30 ans et qui s'est considérablement complexifié depuis 15 ans, en particulier avec la multiplication d'un certain type de parcours nouveaux de formation, notamment dans les formations privées ou les formations consulaires. Un système extrêmement complexe, en même temps que très rigide. Dans ce volume de veille, et je terminerai par là, il y a une recherche qui est la recherche de Charles, qui a été une recherche récente, qui m'a beaucoup frappé. Lorsqu'on compare le modèle français de formation et le modèle britannique à l'aide d'une métaphore, qui est la métaphore du parcours en TGV pour le modèle français, linéaire, peu d'arrêt, une fois qu'on y est, il est difficile de faire demi-tour, et de toute façon, il est rare qu'un TGV s'émancipe de son rail. Ou alors ça crée des catastrophes. Avec le parcours britannique de formation, qui est, lui, modélisé, métaphorisé, sous l'angle du trajet en voiture, sans carte, où l'on prend les sentiers qui bifurquent, où l'on prend les carrefours un peu en fonction du paysage qu'on voit devant soi et qui change à mesure qu'on progresse, beaucoup plus qu'à partir de l'idée que l'on part d'une gare et que l'on arrive nécessairement à une autre, à un horaire qui est de surcroît un horaire fiable. La métaphore avec la SNCF peut parfois s'interrompre. Mais il est clair que nous avons là une image qui est très utile pour penser la réalité du défi qui est le nôtre. Et peut-être qu'un des rôles de ces conférences de consensus serait aussi d'arriver, au passage, à définir une autre manière de concevoir la formation supérieure qui corresponde plus à un parcours de randonnée assez libre, en même temps que très cadré dans un certain nombre d'étapes, parce que les étudiants ont besoin de cadrage à certains moments et dans un certain nombre d'étapes, beaucoup plus que cette vie du rail qui consiste à considérer que lorsqu'on a pris un train à une certaine heure, à un certain moment de sa carrière scolaire, on ne peut absolument plus changer sans déchoir. Si nous arrivions à introduire un tout petit peu plus de souplesse, en même temps qu'un tout petit peu plus de richesse dans la prise en compte de ces expériences singulières de formation dont nous parlions, alors ces conférences de consensus auront véritablement servi à quelque chose. En tout cas, merci d'être là, merci à toutes les équipes qui ont permis d'organiser ces beaux événements, et je vous souhaite deux jours de fructueux travail, et en espérant que ce travail vous plaise, et que nous aurons ainsi le plaisir de vous accueillir encore plus nombreux à Lyon au mois de mai pour la la deuxième étape de cette randonnée au long cours que nous avons lancée aujourd'hui avec la DGCIP. Merci à vous.